Agriculteur, agriculteur. Agriculteur, agriculteur.
Voici Zoom avec cette semaine le monde paysan par le grand bout de la lorgnette pour élargir le champ de la réflexion et de l'action. Une émission réalisée et présentée par Martine Calcinotto sur Bram FM 98.3 au cœur de la Corrèze. Fréquence Grenouille a lieu tous les ans du 1er mars au 30 mai. Lors de cette opération, les conservatoires d'espaces naturels et leurs partenaires en France, métropolitaine et outre-mer, organisent plusieurs centaines de manifestations en faveur de la préservation des zones humides. Ces animations permettent de découvrir ces milieux fragiles ainsi que leurs habitants, notamment les amphibiens, crapauds, grenouilles et tritons. J'ai participé à une de ces manifestations, une conférence animée dont vous avez pu écouter précédemment la première partie. Voici donc Fréquence Grenouille, deuxième partie.
Alors notre premier crapaud c'est l'alite accoucheur. Ah ben je vais mettre le son, regardez, on va commencer par les sons. Écoutez bien, ça vous l'entendrez, je pense que les parents aussi ils doivent connaître.
Ah oui, ça c'est le bruit du...
Déjà c'est le bruit de lui, il s'appelle l'alite accoucheur, mais c'est le bruit de quelqu'un d'autre, tu as raison. Il y a un rapace nocturne qui fait ce bruit-là.
Le hibou ?
Ouais, non pas le hibou, c'est aussi le hibou petit duc, c'est le petit duc quoi, qui fait ça. Ouais. Mais comme on les entend pas à la même période, il y en a un qui chante à une période et l'autre qui chante là actuellement. Comme ça. Donc ça c'est notre alite, c'est un petit crapaud. Lui, c'est le crapaud accoucheur, je crois qu'il s'appelle, j'ai pas mis, alite accoucheur ou crapaud accoucheur. Alors tu sais comment il fait? Il cherche un petit point d'eau, par exemple un lavoir, où l'eau est proche de la surface, il se retourne, il se recule, il trempe ses fesses dans l'eau, et il attend, mais un à un en fait, ou deux à deux, les petits têtards vont aller se mettre sur le mur et aller au fond de l'eau, et puis là chacun fera sa vie, lui le papa va repartir. Et les têtards sont laissés dans l'eau et vont se développer et grandir. Donc c'est un petit, vous voyez, 3,5 cm il fait. On l'entend entre fin mars et août, c'est sa période de reproduction. C'est pas comme les grenouilles, il y a 3000 œufs, c'est entre 150 et 300 œufs qui sont déposés. Il peut avoir plusieurs pontes, il s'accouple avec une femelle, mais il peut récupérer la ponte d'autres femelles aussi. Il peut avoir 2-3 pontes. Voilà, comment on le reconnaît? Au champ, souvent. C'est très discret, en fait, quand on essaie de le trouver, on en approche à 2-3 mètres, il se tait. La pupille, il a une pupille dorée, verticale, en fait, des yeux assez saillants, c'est vrai, et puis il a une ligne, en fait, de points orangés sur le dos, mais en période de reproduction. Les murs en pierre sèche, s'il y a des murs en pierre sèche, il apprécie énormément. Chez les crapauds, pour reconnaître le crapaud commun des autres, il faut regarder la forme de ces petits bourrelets qu'il a là derrière. C'est le seul qui a un iris rouge orangé comme ça. Il est beaucoup plus grand que notre petit crapaud, entre 9 et 11 cm. Et des pontes, ce sont des longs chapelets en fait, qu'il laisse et qu'il enroule autour de la végétation, entre 3000 et 8000 œufs. Et donc la femelle est beaucoup plus grosse que le mâle. Je ne sais plus qui me parlait de taille en fait, entre les grenouilles et les crapauds. Chez les amphibiens, souvent, la maman ou la femelle est beaucoup plus grosse que le mâle. Pour l'anecdote, il chante pas, mais par contre, quand on met les pieds dessus, il couine un peu comme ça, comme on l'entend. C'est pas un chant, il a pas besoin. En fait, les mâles, ils sont tellement nombreux, ça doit être le sex ratio, c'est le nombre de mâles qu'il y a pour une femelle, en fait. Et je crois que ça doit être 10 pour 1 en général. Donc, ils sont très nombreux, ils ont pas besoin de chanter. Les femelles, elles trouvent toujours un mâle pour s'accoupler. C'est pas le plus beau des chants. Le crapaud calamite, celui-là il est un peu plus original, un peu plus discret aussi. Sur les milieux secs et chauds, sur le Corse on en trouve, mais ils sont assez rares en fait. Il faut que ça soit aussi suffisamment sableux et avec une végétation partielle. Donc il est intermédiaire entre le crapaud accoucheur et le crapaud commun. Il est un peu plus petit, hein, 7 à 8 cm. Je vais lancer le chant de suite. Faut bien retenir, peut-être qu'on entendra après en mars. Hein. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, est-ce que vous savez qui chante? Est-ce que c'est le mâle ou la femelle qui chante?
C'est le mâle.
C'est le mâle, et ça lui sert à quoi de chanter? D'après toi.
D'appeler la maman.
Ouais, exactement. Ça s'appelle un chant nuptial, il l'utilise pour, ça, pour attirer la femelle. Alors, pour se positionner aussi par rapport à ses congénères, et, mais surtout pour attirer les femelles. Donc, le plus joli chant, le plus beau chant attirera la femelle du site. Le crapaud calamite. Alors, la différence par rapport au crapaud commun principal, c'est sa couleur. Et encore, c'est, quand on parle de couleur, c'est difficile. Quand les amphibiens sortent d'hibernation, ils ont des couleurs très ternes, en fait, qui vont prendre toute leur teinte au moment de la reproduction, au pic de reproduction. Et sinon, le moyen de le reconnaître, mais il a une ligne médio-dorsale qui est jaune. Et quand vous êtes en voiture, que vous voyez sur une route quelque chose traverser, si vous voyez sauter, bien souvent c'est des grenouilles qui sautent, ou ça peut être peut-être un crapaud. Il a l'habitude, quand une voiture s'approche, de se gonfler, de faire vraiment... d'essayer d'impressionner un petit peu, il se campe sur ses pattes. Alors que le crapaud calamite, ce qu'il fait, lui, dès qu'il y a un bruit, c'est qu'il court. C'est le seul crapaud, pour le reconnaître, sur une route, qui, si vous voyez courir, c'est du crapaud calamite. Après, entre mâle et femelle, disons que si vous pouvez vous approcher suffisamment près pour les reconnaître, il suffit de regarder sur les doigts avant, ils ont des taches noires, qui sont des callosités qui apparaissent au moment de la reproduction.
On est sur un route et qu'elle saute sur la voiture.
Qu'elle saute sous la voiture. Et des fois, ça arrive, tu vois. Même si on veut l'éviter, ton papa, il sait où sont les roues, par exemple. Il dit qu'il pense que la voiture, elle va passer d'un côté et de l'autre. Et la grenouille, bien souvent, quand elle est sous le capot, elle saute. Et quand elle saute, ben, souvent, elle se fait assommer et c'est fini pour elle. Donc, il vaut mieux, si on peut, essayer de ralentir. Si on ne roule pas trop vite, on ralentit, puis on passe de l'autre côté. Faut pas qu'il y ait de voiture derrière. Faut pas que ça cause un accident non plus. Mais tu sais, pour les protéger, c'est bien d'en parler, en fait, parce que une des menaces importantes pour les amphibiens, c'est les routes, en fait. Et il y a des actions de protection qui sont mises en place. Il y en a de deux types, comme des buses, qui sont placées vraiment sur des sites de migration où énormément, 1000, 2000, 3000 crapauds veulent traverser pour rejoindre un point d'eau. Ils dorment dans une forêt, ils ont besoin d'aller dans ce point d'eau pour retrouver les femelles et pondre. Et pour traverser, on leur fait des trous sous la route. Ça, c'est une possibilité. Et une autre, c'est de leur mettre une bâche d'un côté de la route pour les coincer et faire des trous où on met des seaux dedans. Et ils vont se mettre dans ces seaux et tomber dans ces seaux. Et des gens de bonne volonté vont venir les récupérer le soir ou le matin, ces seaux remplis de crapauds ou de grenouilles, pour aller les mettre de l'autre côté de la route et qu'ils ne se fassent pas écraser. Et quand la reproduction est finie, qu'ils ont fini de pondre leurs œufs, qu'ils veulent repasser de l'autre côté, on met une bâche de l'autre côté, on creuse un petit trou, on met des seaux et on les fait passer de l'autre côté. Le pélodite ponctier ou grenouille persillée. Alors, c'est une espèce assez rare. Je vous mets le champ. Elle a été inventoriée sur le site l'année dernière. J'espère qu'on aura l'occasion de la voir parce qu'elle est vraiment originale. On a l'impression que c'est des boules qui s'entrechoquent. Teintement de boules de pétanque, ça m'est un petit peu vrai. Persillée de vert, en fait. Elle a les yeux bien saillants et des pattes longues comme une grenouille, en fait. On est entre la grenouille et le crapaud. C'est une famille intermédiaire des pélodithidés. Petite comme le crapaud. Il ne faut pas imaginer. C'est vrai que quand on tombe dessus, on se dit c'est un juvénile, c'est un petit jeune. Mais non, c'est taille adulte, entre 3 et 4 cm. Et leurs pontes, ce sont des pontes accrochées à de la végétation qui sont petites, quoi, réparties sur un végétal sur une dizaine de centimètres des petits œufs. Paquet de 10 à 100 œufs. Voilà. Je ne vais pas trop m'attarder sur la grenouille verte, elle est très difficile. Les gens la confondent de temps en temps parce que comme elle a souvent une ligne verte sur le dos, ils la confondent avec le crapaud calamite. Mais bon, elle a des taches régulières sur le dos, elle ne court pas, elle saute. Elle a beaucoup moins de pustules sur le dos. Voilà, elle fait entre 9 et 11 cm. Donc le crapaud calamite, il est un peu plus petit quand même, entre 7 et 8 cm. Et les grenouilles que vous entendez énormément dans vos mares, elles font ce bruit-là.
Ouais, c'est ça.
Il y en a une qu'on appelle la grenouille rieuse. On a l'impression que voilà, elle se moque de nous et puis elle fait un peu de bruit sous la fenêtre pour nous empêcher de dormir le soir. Il y a des gens qui dérangent. Donc alors elle peut pondre jusqu'à 10 000 œufs bruns et on les voit pas si souvent que ça en fait parce qu'ils sont attachés à la végétation et souvent au fond. Voilà. On est toujours chez les anoures. Dans celle-là, je pense, bon, pour l'instant, elle est présente dans d'autres départements, je peux en dire deux mots. Grenouilles rousses, on les trouve souvent dans les zones forestières. Elles ont, pour les reconnaître, grenouilles rousses et puis grenouilles agiles, elles ont ce bandeau noir sur les yeux un peu. Elles font ce bruit-là. C'est assez sourd, ouais, un grondement sourd en basse fréquence. Très difficile de les attraper, celle-là. Grenouille rousse, grenouille agile, même grenouille verte aussi. Elle saute rapidement. Notre grenouille agile, elle ressemble beaucoup en fait à la grenouille rousse, si ce n'est le. Je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, c'est la taille du tympan qui permet de différencier en fait par rapport à la grenouille rousse. Au niveau de la coloration, c'est à peu près la même, elle est un peu plus petite. Et au niveau du son, la forme du museau est différente aussi, museau long et pointu. On en trouve souvent dans les mares forestières. Enfin, la rainette verte dont je vous ai parlé tout à l'heure. On ne l'a pas sur notre territoire. Et celle qu'on a sur notre territoire, c'est celle qui a un bandeau noir qui s'arrête sur les membres antérieurs, en fait. Rainette méridionale, elle s'appelle. Et l'autre, rainette verte ou arboricole. Elle est anthropophile aussi, hein. On les trouve dans les jardins, près des habitations, comme le crabe commun, il profite aussi des jardins.
Chères auditrices et chers auditeurs, nous reprendrons le cours de cette conférence donnée dans le cadre de Fréquences Grenouilles autour des amphibiens. Après cette pause musicale, je vous propose donc de rester avec nous si ces jolis petits batraciens vous intéressent.
Agriculteurs, agriculteurs,
chères auditrices et chers auditeurs, vous écoutez l'émission Zoom sur Bram FM 98.3 au cœur de la Corrèze. Fréquence Grenouille a lieu tous les ans du 1er mars au 30 mai. Lors de cette opération, les conservatoires d'espaces naturels et leurs partenaires en France métropolitaine et outre-mer organisent plusieurs centaines de manifestations en faveur de la préservation des zones humides. Ces animations permettent de découvrir ces milieux fragiles ainsi que leurs habitants, notamment les amphibiens, crapauds, grenouilles et tritons. J'ai participé à une de ces manifestations, une conférence animée dont vous avez pu écouter précédemment la première partie. Voici donc Fréquence Grenouille, deuxième partie.
Et voilà l'espèce un peu particulière qui, en Midi-Pyrénées, fait l'objet de nombreuses protections, de recherches, d'études. C'est le sonneur à ventre jaune. Il est très particulier. Il a une peau très granuleuse, un visage très court, des yeux. C'est en forme de quoi, les pupilles?
Un cœur.
Ouais, t'as vu, ça fait un cœur. C'est assez étonnant quand on le trouve. Et dessous, alors là, on voit que la gorge, en fait, mais c'est tout son corps. Il est tacheté de jaune, comme ça. Dessin typique, tache jaune du thorax. Et le bruit qu'il fait, vous allez voir... Son nom, c'est le sonneur à ventre jaune. Vous allez voir. Alors, on en a fini avec nos anours. Tout ce qui était crapauds et grenouilles, vous connaissez tous les crapauds et les grenouilles que vous pouvez voir chez vous. Et bien maintenant, il y a tout ce qui est triton et salamandre. Et il n'y en a pas beaucoup. Comment on les reconnaît? Alors, les tritons et les salamandres. La queue... Chez le triton, elle est comprimée latéralement. Hein? La queue chez la salamandre, elle est arrondie. Alors, chez les tritons, le mâle, le papa, quand il est en reproduction, qui va aller dans l'eau pour retrouver la femelle et pondre, il a un petit filament caudal qui est long comme ça, et ça peut faire penser à une pique, mais il ne l'utilise pas du tout pour piquer les autres. Il l'utilise pour tapoter contre son dos, pour faire le beau et attirer la femelle. Salamandre, elle a la peau lisse avec sur la partie centrale de son dos des glandes sur le dos. Les œufs chez les tritons sont isolés, enroulés, déposés sur les végétaux, alors que chez la salamandre, c'est directement des petites larves en fait. Et les trois urodèles du Tarn-et-Garonne, c'est notre salamandre tachetée, un grand modèle, c'est grand commun. C'est qui? C'est Baptiste, hein? Tu me disais que tu en avais vu des salamandres, c'est grand commun. Tu en as vu des adultes comme ça, jaunes et noirs? Alors papa, c'est grand comment? Plus que ça, ouais. Ça peut aller jusqu'à 20-25 cm en fait. Ouais, un peu plus petit. Ouais. Mais c'est un des amphibiens les plus grands de Tarn-et-Garonne. Donc on a notre triton, notre salamandre tachetée, notre triton palmé et notre triton marbré. Donc la salamandre tachetée, alors elle est opportuniste. Dès qu'il y a une ornière, dès qu'il y a une flaque, qu'elle a besoin de pondre, elle y pondra dedans. Il doit y avoir dans une ponte 70 œufs à peu près. Et voilà, il y en a toujours qui arrivent à maturité. Elle n'a pas besoin de rester, la flaque n'a pas besoin de rester trop en eau pour que, comme c'est déjà une salamandre en miniature, elle a déjà, au bout de quelques semaines, moyen de sortir de l'eau et de trouver un point d'eau plus permanent. Elle est très terrestre, on en parlait tout à l'heure avec quelqu'un en fait. Elle va dans l'eau, la femelle, juste pour pondre ses œufs, c'est tout, et elle en ressort. Donc on les trouve rarement dans l'eau. On trouve souvent les larves de salamandre. Et on les trouve en errance sur les sites de migration ou alors quand elles chassent, sur les routes pour aller d'un bois ou à un point d'eau.
Il y a beaucoup de légendes autour de la salamandre.
Il y a beaucoup de légendes, ouais. Notamment qu'elle crache du feu. Mais d'où le nom d'une opération qui a été lancée l'année dernière qui s'appelle « Un dragon dans mon jardin ».
Chères auditrices et chers auditeurs, nous allons conclure cette deuxième partie de Zoom consacrée à l'opération Fréquence Grenouille avec les tritons, ces mystérieuses petites bêtes.
Donc notre triton palmé, il est beaucoup plus petit que notre salamandre, entre 8 et 9 cm. On le voit dès mi-février, c'est un des premiers avec le crapaud à se mettre en eau en fait. Il utilise les milieux aquatiques très tôt. Malheureusement pour lui, on a eu un mois de février, de mars et d'avril très différents. Février, il y a eu ce goût de froid avec la neige, des mares peu profondes qui ont gelé, et beaucoup d'entre eux qui se sont retrouvés coincés sous la glace. Donc triton palmé, crapaud commun qui sont très précoces ont certainement cette année une mortalité élevée. Pourquoi est-ce qu'on en parle et c'est si important? Ils rentrent dans le cycle et dans la chaîne alimentaire des écosystèmes de nombreux animaux du territoire. Donc ils sont mangés, j'en ai pas parlé. Vous savez qui mange les tritons? Qui mange les amphibiens? Vous avez une idée? Qui c'est qui mange ça?
Les poissons?
Ouais, il peut y avoir des poissons.
Des serpents ?
Ouais. Les grenouilles se mangent entre elles. Eh bien, c'est une très bonne idée. Elles ne le font pas tout le temps, mais ça arrive des fois, ouais. Ouais, effectivement. Il y a un oiseau, ouais. Un oiseau qui a un long bec. Un bec long comme ça, en forme de poignard.
Le héron.
Le héron, ouais. Le héron cendré, ouais. Et je ne vous ai pas mis les chants sur les... Ça ne vous a pas étonné ? Sur les urodèles, sur les tritons et les salamandres, je ne vous ai pas mis les chants. Est-ce qu'ils chantent, les tritons et les salamandres ?
Non, la salamandre, non.
Non, elles ne chantent pas. Non. Il n'y a que les... Zanour, donc les grenouilles et les crapauds qui chantent. En Tarn-et-Garonne, on n'a que la salamandre tachetée qui est jaune et noire. En Corse, il y en a une qui est toute noire. Il y a le procte des Pyrénées, mais il n'est pas rouge non plus. Après, il y a des amphibiens exotiques. Hein. Alors, il arrive que sortie d'hibernation, elle n'a pas sa couleur vert. Elle a une couleur très terne et peut-être que ça peut tirer sur l'orange. La femelle, elle met environ 400 œufs dans le... La femelle, elle est très très grosse, elle a un ventre qui est rond comme un ballon. Les milieux de vie, donc j'en ai dit quelques mots, on les retrouve... qu'est-ce que l'amphibien regarde quand il cherche à pondre? La nature du point d'eau, la topographie, est-ce que c'est alimenté en eau? Ça veut dire, est-ce que c'est une eau stagnante, une eau de milieu dynamique? La nature du substrat, tout à l'heure, il y a une espèce qui avait besoin de sable, une autre, ça sera plus un milieu pierreux pour pouvoir hiberner. L'ensoleillement du site est important. Pourquoi? C'est pas tant pour l'adulte, c'est plutôt pour les pontes. Les eaux plus chaudes vont permettre aux œufs de se développer plus facilement, plus rapidement. Et la végétation aquatique pour que les pontes puissent être accrochées, préservées, échapper aux prédateurs.
Et si vous aussi, chères auditrices et chers auditeurs, vous êtes intéressés par ces conférences, ces sorties découvertes des zones humides et des amphibiens, éventuellement le comptage participatif, les chantiers de restauration de mares, la mise en place de crapauducs pour éviter que les amphibiens ne se fassent écraser sur les routes, et tout ceci dans votre département, découvrez les activités proposées près de chez vous dans la rubrique « Activités » sur le site www.jagispourlanature.org ou tout simplement sur le site de fréquence-grenouille.
Agriculteur, agriculteur. Agriculteur, agriculteur. Agriculteur, agriculteur.
C'était l'émission Zoom avec cette semaine le monde paysan par le grand bout de la lorgnette pour élargir le champ de la réflexion et de l'action. Sur Bram FM, tous les mercredis à 9h30, les vendredis à 14h et bien sûr en podcast sur bramfm.com. À bientôt.